Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Eh bien bonjour chers amis auditeurs et auditrices, eh bien elle a encore tenu une semaine de plus. Et si la semaine dernière notre spécialiste Gilles Escarguel nous dressait un avenir un petit peu inquiétant, je crois que cette semaine on va au contraire avoir un avenir radieux de la biodiversité, puisque Marie-Charlotte Hanssens va nous expliquer comment la biodiversité va sauver l'apéro. Donc ça c'est quand même... Je crois que c'est la première fois qu'on fait ce lien entre la joie de vivre et puis la biodiversité. Donc ça va être un scoop. Mais avant de passer ce récit, on va avoir nos deux émerveillés du soir. Donc Marie-Edith Robin, qui est plasticienne, peintre et performeuse. Et puis Claire Jeannerot, qui est chanteuse lyrique. M'a-t-on dit, c'est bien ça, Jeanne ?
Claire.
Oh là là, oui, Jeanne, c'est... Oh,
oui, non, mais ça, c'est pas la première fois qu'on me l'a fait. Oui, il y a
oui,
pas de
oui. Et puis de toute façon, s'il faut en faire une, je les manque jamais.
Tout à fait. Oui, c'est bien ça.
Bon, bah, fantastique. Donc, bah, nous voilà dans le vif du sujet. Marie-Edith, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir. Ah oui, alors, vous pouvez bouger un petit peu le micro. Voilà, c'est parfait. Donc, alors, vous êtes plasticienne et vous allez pouvoir écouter le récit... de Marie-Charlotte, le récit biodiversité, puisqu'on est dans le troisième volet de la voie de la biodiversité ce soir. Mais avant ça, naturellement, on a alors soit la chronique de Théo, soit la chronique de Ben, parce que Ben est revenu, ça y est, il a guéri ses entorses marathoniennes.
Ouais, le marathon, c'est fini.
Bon, super. Donc, bon, t'as fini 15 jours après tout le monde, mais bon, c'est l'essentiel, c'est que tu finisses. Bon, on va te laisser encore 2 minutes de plus pour récupérer, puis on va lancer la chronique de Théo, qui lui est toujours à l'heure.
Et oui, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de notre bonne nouvelle de la semaine. Et une fois de plus, ce soir, pas besoin d'aller bien loin, un aller suffira, puisque nous allons à Bruxelles. Non pas pour aller voir Van der Leyen, mais bien la région de Bruxelles, puisque celle-ci a voté en janvier dernier une résolution à la fois hautement symbolique, mais également très concrète, en faveur de la sécurité sociale alimentaire. Alors avant d'aller plus loin, pour rappel, la sécurité sociale alimentaire, c'est un concept porté notamment en France et en Belgique depuis 2017, par plusieurs collectifs citoyens, et qui vise à répondre aux enjeux de malnutrition, qu'on parle en termes de qualité comme de quantité. C'est un enjeu vraiment capital puisque selon le CREDOC, un organisme de recherche français, en 2025, 11% de la population française était touchée par la malnutrition, soit environ 10 millions de personnes, et on est en Belgique sur des proportions équivalentes. Et alors, au-delà de ce petit historique, très concrètement, cette sécurité sociale alimentaire, elle consiste à cotiser chaque mois pour recevoir environ 150 euros par foyer, à dépenser dans des produits de qualité qui rémunèrent plus justement les agriculteurs et qui sont autant que possible respectueux de l'environnement. On est donc ici sur une mesure sociale, mais également environnementale, qui ambitionne de toucher l'ensemble du secteur alimentaire. Et pour en revenir à notre bonne nouvelle, jusqu'ici, ce genre de projet était avant tout porté par des associations, mais très peu soutenu par les pouvoirs publics. Or, en janvier dernier, donc, la région de Bruxelles a voté une résolution qui marque un tournant pour cette sécurité sociale alimentaire. D'abord, cette résolution, elle reconnaît l'intérêt social et économique d'une telle mesure. En effet, quand bien même cette aide serait un coût, ce qui est loin d'être le cas partout, ce serait des coûts en moins, par exemple, sur le secteur de la santé, et on y retrouverait donc un équilibre. Ensuite, cette résolution, elle demande au gouvernement fédéral belge d'étudier la faisabilité d'une sécurité sociale alimentaire à grande échelle, avec tous les acteurs de la société civile, et puis, beaucoup plus concrètement, cette résolution, en reconnaissant l'intérêt social de ces projets, elle permet un accès simplifié aux subventions publiques. Si pour l'instant cette sécurité sociale alimentaire ne concerne que 530 personnes à Bruxelles, on peut donc imaginer que le dispositif est amené à s'étendre dans les prochaines années, et d'ailleurs en France aussi les projets se multiplient, et une loi visant l'expérimentation du dispositif a même été adoptée au Parlement fin 2025. Et je le répète, si c'est une mesure qui vise principalement à lutter contre les inégalités alimentaires, elle permet également de valoriser des produits plus respectueux de l'environnement et une meilleure rémunération pour les agriculteurs, et ça c'est quand même une super nouvelle. Sur ce, je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine.
Eh bien, merci Théo. Alors, tu nous avais déjà fait un pitch sur les paniers pour les femmes enceintes. Maintenant, là, carrément, c'est la sécurité sociale alimentaire. Bon, je crois qu'on va en parler dans une de nos prochaines émissions que tu dois préparer, d'ailleurs, à propos des solutions alternatives en termes d'agriculture. Mais aujourd'hui on a la chronique de Ben qui nous attend.
Moi, je voudrais vous parler ce soir de l'esprit familial qui existe dans l'urbanisme et dans les villes en particulier. J'ai toujours pensé que c'était drôle, cette idée de jumelage. Et effectivement, le jumelage, il existe entre des villes qui, officiellement, n'ont pas de grandes affinités. Et parmi elles, une ville au Groenland comme Uummannaq, elle est jumelée avec une ville en France qui s'appelle Granville. Et ceci a permis, au fond, de faire toutes sortes de coopérations culturelles, scientifiques. Il y a même un festival qui se tient à Granville, dans la Manche, et où les Inuits sont sollicités. Il y a d'autre part, et toujours dans le registre de la politique presque familiale, il n'y a pas seulement les jumelages, mais il y a aussi les parrainages. Et ça, c'est intéressant, le nombre de villes en France où il y a un phénomène de parrainage entre, d'une part, la ville qui parraine des navires de guerre, par exemple. L'un des exemples les plus illustratifs, et peut-être pas assez connu, c'est la ville de Paris. La ville de Paris, elle est au fond la ville marraine du porte-avions nucléaire, le Charles de Gaulle. Il y a d'autres villes comme ça, il y a Villefranche-sur-Saône, qui parraine par exemple un sous-marin nucléaire, un SNA, un sous-marin nucléaire d'attaque, comme on les appelle, où il y a encore le triomphant. Et c'est intéressant de voir cette espèce de comment on tisse des liens entre, d'une part, ces villes marraines et, d'autre part, des symboles. D'ailleurs, l'association des villes marraines, elle existe vraiment, elle existe d'ailleurs depuis... depuis une vingtaine d'années, et en tout cas depuis, elle est présidée par Louis Giscard d'Estaing depuis 2014. Donc c'est vraiment quelque chose qui existe et qui mérite d'être développé. Je dis ça parce que je pense que toute cette partie parrainage et marrainage est devenue beaucoup trop militaire, et on pourrait imaginer un autre type de parrainage avec des villes pour d'autres causes et pour d'autres destinations ou d'autres objectifs. Voilà, mais vous pouvez retenir qu'en tout cas, il y a des villes qui méritent justement d'être connues parce qu'elles sont capables de s'associer avec d'autres villes. Et écoutez, je vais essayer de faire en sorte que ça se passe davantage au nom d'un certain amour familial.
Écoute, on va noter et puis on va en débattre. Hein. Mais en tout cas, on retient. Alors bon, moi, je vais... Alors là, pour une fois, là, tu m'as laissé beaucoup de temps pour ma chronique sur l'agenda de Madame la ministre. Alors, ça tombe bien, elle a des choses à dire aujourd'hui. Alors, imagine qu'ils viennent de signer lundi, donc ils ont signé la convention relative à la création de l'agence territoriale de la biodiversité en Guyane.
Donc, tu parles de Madame Barbu ?
Madame Barbu.
Ah oui, on parle beaucoup d'elle ces jours-ci.
Eh bien, c'est bien, parce que ça fait à peu près 6 mois qu'on entend, on n'avait jamais eu une ministre aussi discrète. Et là, ça commence à venir, on sent qu'elle prend ses marques, après 2-3 tours de piste. Donc bon, après, effectivement, alors elle a vu, ce coup-ci, elle a vu des Espagnols. Ensuite, bon, c'est la réunion de travail, mercredi, il y a un débat avec le vice-président d'Amorce. Alors, ce n'est pas les pétards Amorce, Amorce, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'association des collectivités territoriales qui gère la gestion des ordures ménagères, et plus particulièrement, on va dire, les incinérateurs. Donc aujourd'hui, il y a une soirée d'accueil des délégations du G7 environnement. Donc ça, c'est pareil, on fait un G7 environnement, mais bon, grosso modo, on en parle quand même très très peu. On se demande à quoi ça sert.
Léo, on fait partie.
Mais bon, écoute, en tout cas, c'est bon signe, c'est mieux, vaut mieux qu'il y en ait un sur l'environnement qu'il n'y en ait pas du tout. Et puis d'ailleurs, vendredi, ça va être... non, c'est pas vendredi, c'est jeudi. Tout ce beau monde va aller faire une balade à Fontainebleau parce que la France va s'engager sur la protection des forêts. Imaginez-vous. Donc, écoutez, on sait bien, les annonces, c'est super. On va essayer
Fontainebleau, c'est symboliquement, c'est très important.
Ah, ça, c'est clair, oui.
À partir de 1948, il y a eu l'IUCN qui s'est réuni la première fois à Fontainebleau.
Oui, et avant, Fontainebleau, c'est carrément, j'irais au 19e siècle, c'était les prémices de tous les espaces de conservation de la nature. Et il y a même des réserves de intégrales, quelques timbres-postes de réserves intégrales qui n'ont pas bougé, n'ont pas été altérées par l'homme depuis maintenant plus de presque un siècle et demi. Quoi. C'est, mais bon, ça, on va demander à Marie-Charlotte ce qu'elle en pense.
Qu'elle avait une collection de timbres-postes?
Voilà. Bon, tout ça pour conclure, pour dire qu'effectivement, cette semaine, on avait des choses dont Madame Barbu avait des choses à nous dire, et c'est très bien. Donc, il y aura une conférence de presse vendredi 15, conférence de presse sur le G7 environnement. On essaiera de se mettre à l'écoute et puis de voir si on peut en sortir un compte-rendu rapide. Mais bon, c'est pas notre habitude de faire des choses concises et rapides. Bon, en attendant, on va se passer la petite musique de... Ah bah oui, c'est pas la musique habituelle, non. C'est la musique d'introduction du récit de la biodiversité. Et donc, Marie-Charlotte Ancès, ça va bientôt être à vous de prendre le micro et de nous faire ce conte de la biodiversité. Alors j'ai annoncé quand même que vous allez nous parler de vos deux chocs de biodiversité, vos deux révélations dans votre carrière d'écologue. Voilà. Et bon, on lance la musique et puis Marie-Charlotte, tu prends la suite.
Ok. Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Marie-Charlotte, c'est à toi.
Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de biodiversité. Alors, la biodiversité, tout le monde en a entendu parler, mais un peu personne ne sait ce que c'est. Moi, j'ai fait plein d'études, j'ai étudié la biodiversité pendant longtemps. Quoi. Et... ça date des années 80 à peu près. Et ça décrit en fait toute la diversité du vivant. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens en général, ils en ont entendu parler, mais ils ne savent pas trop ce que c'est, ils ne le ressentent pas réellement. Et je veux vous parler de deux petites choses qui me sont arrivées, où j'ai vraiment pris conscience non seulement de la biodiversité, mais surtout de sa disparition et de l'importance de sa disparition. La première, c'était j'étais sur un projet en Thaïlande où je devais travailler sur les rotins. Donc les rotins, c'est des palmiers l'IA naissant, qui ont été utilisés et surutilisés dans les années 70-80 pour faire des salons de jardin. Et au bout d'un moment, il n'y avait plus de rotin, donc on a fait des salons de jardin en plastique. Et là, en Thaïlande, il y avait une idée de retourner dans les forêts tropicales primaires, donc primaires parce qu'elles n'ont pas été touchées par l'homme, ou très très peu, de façon à étudier un peu les populations naturelles, sauvages, de rotins. Donc je ne connaissais pas la Thaïlande, donc j'ai été voir Monsieur Palmier, donc le grand spécialiste des palmiers au niveau mondial, celui qui est capable de donner un nom à n'importe quel palmier, il y en a beaucoup, et puis aussi qui avait fait la flore des palmiers de Thaïlande, donc il les connaissait vraiment tous parce qu'il les avait décrits, enregistrés. Et donc très très gentiment, donc John m'a dit eh ben écoute, si tu cherches des rotins, je vais te donner une liste de 10 endroits à peu près, et là je suis sûre que tu vas trouver exactement ce que tu veux. C'est les plus beaux restes de forêts primaires en Thaïlande sur lesquels il avait travaillé dans les années 70-80. Là, on est au tout début des années 2000, donc je pars en Thaïlande et je vais visiter le premier site. Et le premier site, en fait, il y avait un hôtel international qui était construit sur la forêt tropicale. Donc on se dit, ok, on est encore un peu près de Bangkok, donc on va visiter le site suivant. Et là, la dizaine d'hectares de forêt tropicale qui m'avait été décrite, il restait l'équivalent d'un square parisien, un petit square. Et donc, de site en site, et ben en fait, tout avait disparu. En moins de 20 ans, les dix plus beaux endroits où trouver de la forêt tropicale en Thaïlande avaient juste disparu ou étaient réduits à un timbre-poste. Et là, bien qu'avant j'ai fait plein d'études sur la biodiversité, la perte de la biodiversité, c'est vraiment d'avoir vu l'absence de ces forêts qui m'a fait prendre conscience de la vitesse de cette disparition et de la radicalité de cette disparition. Parce qu'une fois qu'il n'y en a plus, c'est fini, on ne peut pas les reconstruire. Et donc j'ai un deuxième exemple qui est celui du cassis. Hein, qui est, on revient en France, en Bourgogne. Et là, en 2018, donc quelques années plus tard, j'ai des agriculteurs qui me disent qu'ils ont un problème avec la production de cassis. Donc le cassis qui est bien entendu utilisé pour faire de la crème de cassis de Bourgogne ou crème de cassis de Dijon avec un petit coup de vin blanc ou même tout seul, c'est très bien aussi. Et donc la production est en train de chuter, d'après eux, à cause d'une cochenille qui a attaqué les plants de cassis et qui était un gros ravageur. Et puis en discutant avec les agriculteurs, moi je me suis aperçue que c'était peut-être plutôt un problème de pollinisation. Mais eux me disaient, non mais la pollinisation, on le sait bien, c'est pas ça, c'est la cochenille. Donc on a trouvé un accord, je travaillais sur la cochenille, mais je pouvais regarder un peu les pollinisateurs aussi. Et donc, au beau jour du printemps, mi-avril, le cassis fleurit, on part sur le terrain, un filet à papillons qui fait rire l'université entière, hein, et on part dans les champs de cassis pour aller regarder qu'est-ce qui reste comme pollinisateur avec une paire d'étudiants. Et là, comme en Thaïlande, il n'y avait plus rien, en fait. Donc j'ai récupéré des vieilles données des années 80 où en fait en une minute dans un verger de cassis on avait 50-60 pollinisateurs et en 2018 il fallait 3 minutes pour en voir un seul. Donc là on a une disparition de 99% des pollinisateurs dans nos vergers, ce qui est tout à fait cohérent avec ce que trouvent mes collègues dans d'autres cas, mais ce qui fait quand même très peur. Et là, on se dit, mais comment est-ce qu'on arrive encore à faire du cassis, qui est censé être pollinisé uniquement par les insectes, alors qu'il n'y a plus d'insectes ? Donc, qu'est-ce qui se passerait si on mettait suffisamment de pollinisateurs ? Donc pour ça, on s'est dit, on va faire une expérience où on va mettre un maximum de pollinisateurs sous un filet pour qu'ils soient obligés de visiter le Cassis, de façon à voir quelle serait la production s'il n'y avait pas cette limitation en pollinisateurs. Donc on met notre filet, on met des bourdons par-dessous, on attend le moment de la récolte. Et là, eh ben on a eu quand même un grand choc parce qu'on a triplé, plus que triplé la récolte en mettant suffisamment de pollinisateurs. Et dans certaines parcelles, on a même multiplié la production de cassis par 5. Et là on se dit, mais comment ça se fait que les agriculteurs se soient aperçus de rien ? Eh bien, les agriculteurs, ils se sont aperçus de rien, parce que c'est venu petit à petit, et puis qu'à chaque fois, ils pensaient qu'il y avait un problème de cochenille, un problème de vent du nord, un problème de puceron ou d'un autre ravageur, alors qu'en fait, le véritable problème, c'était les pollinisateurs. Donc là, on avait bien vu qu'il y avait un problème. Après, il fallait une solution. La solution, c'était de retrouver des pollinisateurs. Alors, les fleurs de cassis, elles sont toutes petites. Il n'y a pas beaucoup de nectar, il n'y a pas beaucoup de pollen. C'est les deux choses que les pollinisateurs viennent chercher en visitant les fleurs. Et donc, les abeilles domestiques et les bourdons, si on ne leur met pas un filet sur la tête, ils préfèrent aller visiter autre chose. Un champ de colza, un joli cerisier. Donc, ils ne restent pas. Et on a trouvé par contre une autre espèce d'abeille, donc c'est une abeille sauvage qu'on appelle osmie ou osmia en latin, les scientifiques aiment bien le latin. Et cette petite osmie, alors elle est solitaire, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas des colonies comme les abeilles, donc toutes les femelles sont des reines et il n'y a pas d'ouvrières. Et elle, elle aime le cassis. Avec ces agriculteurs, on a déjà testé si ça marchait et on a vu qu'elle pouvait augmenter la production de 20, 30, voire 40%. Moi, j'ai été un peu déçue parce que je voulais x5 ou x3. Mais par contre, les agriculteurs, eux, ils ont trouvé que c'était déjà super bien de faire ne serait-ce que 20%. Surtout qu'élever des osmies, ils pouvaient le faire eux-mêmes à la ferme. Et ça revenait pas trop cher. Et donc, c'est un système qu'on a mis en place avec eux. C'est ce qu'on appelle de la recherche-action. Donc, le chercheur a des bonnes idées. Et donc, après, il va demander aux agriculteurs comment on peut en faire quelque chose de réalisable en termes de quantité de travail, d'un point de vue économique. Et après, eh ben, les agriculteurs producteurs de cassis, ils sont saisis de l'idée, ils ont leurs élevages d'osmies, ils discutent entre eux pour que ça aille de mieux en mieux. Quand ils ont des idées, on en discute, on échange et on essaie que ça se développe le plus possible. Et donc là, pour l'instant, les agriculteurs qui mettent des osmies augmentent leur production de 40% et on développe avec des bandes fleuries et puis d'autres mesures agroécologiques qu'on teste. Et là, vous allez me poser la question de la cochenille. Au début, j'avais dit que je travaillais sur la cochenille. Donc, je n'ai pas menti, j'ai travaillé sur la cochenille. La première chose qu'on fait comme scientifique, c'est qu'on va faire de la bibliographie. Donc, on va regarder dans les archives qu'est-ce qu'on trouve. Et donc j'ai trouvé l'histoire de cette cochenille qui s'appelle la cochenille blanche du mûrier parce qu'elle est arrivée à la fin du 19e siècle en Italie dans les mûriers blancs qui étaient utilisés pour donner à manger aux vers à soie pour produire la soie de qualité des Italiens. Et donc cette cochenille a dévasté les mûriers blancs. On a envoyé des chercheurs en Asie, là où d'où venait cette cochenille, et ils ont trouvé des parasitoïdes. Alors des parasitoïdes, c'est un peu alien en fait, c'est des insectes qui vont pondre dans un autre insecte et la larve du parasitoïde va dévorer l'insecte depuis l'intérieur. Donc c'est alien, mais ça marche super bien en biocontrôle. Et puis il y a eu cette introduction, quelques articles scientifiques, et puis la guerre de 14, on n'entend plus parler de la cochenille. On n'entend plus du tout parler de cette cochenille, jusque dans les années 50-60, où là, on recommence à avoir une grosse littérature scientifique en disant que cette cochenille attaque tout, et que personne n'arrive à s'en débarrasser. Et comme par hasard, c'était l'époque où on a commencé à pulvériser énormément d'insecticides. La petite cochenille blanche du mûrier, c'est une diaspine, ça ne va rien vous dire. Ça veut dire que c'est une cochenille qui est sous une carapace cireuse et qu'elle se sort de sa carapace deux fois trois jours par an, donc pas très souvent. Et cette carapace, en fait, bah, ça la protège des insecticides. Par contre, les parasitoïdes, eux, ne sont pas protégés des insecticides. Et ce qui se passe, c'est que plus on met des insecticides...
Pour tuer la cochenille,
elle s'en fout. Par contre, plus on met des insecticides, plus on tue les parasitoïdes. Et donc, moins la cochenille a d'ennemis, et plus il y a de cochenilles. Comme me disait très justement un agriculteur au début de l'étude, « Ouais, non, mais les insecticides, ils marchent pas bien. Hein. J'ai l'impression même que plus j'en mets, plus j'ai de cochenilles. » Eh bien oui, il avait effectivement raison. Et donc là, on voit bien que la biodiversité, ce n'est pas simplement des petites fleurs, des petites bestioles, un ours blanc, même si on les aime beaucoup. Ce n'est pas simplement des abeilles sympas pour faire de la crème de cassis. C'est aussi tout un tas de services écosystémiques qui nous aident à avoir une vie meilleure. Et la perte de la biodiversité, c'est surtout la perte d'une vie confortable pour les humains.
Eh bien voilà, donc c'est pour ça que je vous disais que la biodiversité allait sauver l'apéro, vous avez tous compris, parce que la crème de cassis c'est la base du kir. Mais oui, alors en dehors de cette petite blague, qu'est-ce que ça peut inspirer un récit comme ça ? Est-ce que ça vous surprend, Marie-Édith et Claire, et non pas Jeanne, j'allais faire encore là. Mais bon, ça y est, j'ai compris. Alors
Non, pas du tout. C'est un sujet qui m'intéresse. Je ne suis pas du tout une spécialiste, mais parce que je peux écouter, lire, effectivement, tout ce rapport du vivant, c'est-à-dire entre des animaux, des humains, et quel que soit ce type d'animal ou le végétal. Que tout est lié, en fait. C'est ça que vous êtes en train de raconter. C'est que tout est lié. Et en fait, moi, ce qui m'a le plus frappé dans ce que vous nous avez dit, c'est la rapidité. C'est ça qui me... Je pense qu'en revanche, parfois, je n'ai pas complètement conscience...
C'est vrai que l'espace-temps...
Que l'espace-temps...
C'est quelques dizaines d'années, non ?
Enfin, c'est quelques dizaines d'années.
Plus votre voyage en Thaïlande.
Et ça ne s'arrange pas, quoi. Voilà.
Oui, surtout qu'il a fallu, dans le processus du climat, c'est deux siècles. La biodiversité, pour la réparer, c'est des millénaires. Et là, on casse en l'espace d'une vie, même pas d'une vie, d'une carrière.
D'une demi-carrière. Et puis surtout, ce qui fait peur, c'est que les causes de disparition de la biodiversité, c'est la perte d'habitat, donc la déforestation en Thaïlande, les pollutions, donc les insecticides pour mes pollinisateurs. Et puis là, on voit arriver le changement climatique.
En plus,
qui va remettre une belle claque à la biodiversité par-dessus. Alors, la biodiversité, tant que les espèces existent encore, on peut se dire qu'on peut restaurer. Ça veut dire qu'on aura une biodiversité qui sera différente de celle de nos grands-parents, mais on peut restaurer des biodiversités fonctionnelles. Par contre, quand une espèce a disparu, elle a disparu pour de bon et on ne revient pas en arrière.
Alors moi, j'aimerais quand même poser une question, c'est quels sont les acteurs qui peuvent éventuellement intervenir avant la disparition. Est-ce qu'il y a des lanceurs d'alerte ? Parce que les lanceurs d'alerte pour s'occuper de la déforestation, il y en a plein. Mais est-ce qu'il y en a autant ?
Pour sauver le kir de Bourgogne ?
Voilà, exactement.
Alors le kir de Bourgogne, là ça va, maintenant j'ai les agriculteurs qui sont bien partis pour plein de mesures d'agroécologie. Oui, il y a des gens qui s'en occupent. Par contre, souvent, on a l'impression de ne pas être entendu.
Oui, parce que c'est pas évident, effectivement, à comprendre que...
Non, mais en plus,
quand il n'y a plus de forêt, on sait de quoi on parle. Mais...
Ce qui est très intéressant dans ton récit, Marie-Charlotte, c'est que là, pour le coup, la biodiversité devient concrète et a aussi des impacts économiques. Et c'est ça qui a été quelquefois inattendu, parce que souvent, combien de fois on l'a entendu, la biodiversité, ah oui, vous allez compter les petites fleurs. Ben non, c'est pas ça. On compte les quintaux de cassis et puis éventuellement les revenus. Alors, un bon verger de cassis, ça rapporte.
Quand il y a beaucoup de pollinisateurs, ouais.
Voilà, c'est ça.
Et non, c'est sûr que la biodiversité, une façon de la voir aussi, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc, c'est tous les bienfaits que la nature fournit à l'humanité. Chaque fois que j'en parle en conférence, en fait, les gens n'en ont jamais entendu parler.
Pourtant, il y a un rapport qui est sorti là-dessus.
Tout à fait.
De l'UNESCO sur les services rendus par...
Exactement, qui doit dater de 2000 ou 2005, je crois.
Ouais, voilà.
Je ne suis pas très douée en date. Et donc, effectivement...
Il y a plus de 20 ans. 20
ouais.
ans, à peu près.
Ouais. Plus d'une vingtaine d'années. Ne serait-ce que les services de pollinisation, quand on les chiffre, Je ne suis pas très douée avec les grands chiffres, mais centaines de millions, voire de milliards d'euros de coûts. Ça veut dire que pour les producteurs de cassis, les pollinisateurs, ça leur coûtait de l'ordre de 10 000 euros hectare. Perte. Ouais. On s'aperçoit aussi, alors bon, je suis plus en agroécologie en ce moment, mais on s'aperçoit que les rendements, même en grande culture, en colza et tournesol, j'ai des collègues qui ont montré que si on diminuait les pesticides de moitié, les agriculteurs augmenteraient leurs revenus. Donc ça, c'est quelque chose auquel les agriculteurs devraient adhérer.
Ils sont sensibles.
Mais en fait, le problème, c'est que tous ces produits sont utilisés beaucoup par habitude et puis beaucoup par précaution. En fait, l'agriculteur, il a peur qu'il y ait un ravageur ou quelque chose. Donc, sur la quantité de pesticides, ils ont un peu tendance à faire un peu monsieur plus. Et puis souvent, les conseillers techniques, ils n'ont pas envie de conseiller et que l'agriculteur rate sa récolte. Donc, ils vont conseiller un peu plus. Et en fait, de un peu plus en un peu plus...
Ce qui est effectivement le processus qu'il ne faudrait pas utiliser, quoi.
Voilà. Alors qu'en fait, si on fait un peu moins et un peu moins, c'est ce qu'on a fait sur le cassis, ben, un peu moins... on a plus de pollinisateurs. Encore un peu moins, on a des auxiliaires de culture, ça veut dire des parasitoïdes, des coccinelles qui vont manger la cochenille ou les pucerons. Et maintenant, on a des agriculteurs qui arrivent à s'en tirer sans aucun insecticide.
Et donc, François, tu vas pouvoir préparer l'apéro.
Aligre FM 93.1.
Voilà. Mais bon, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'apéro qui m'intéresse. Mais ce qui est très important, c'est de montrer, effectivement, ça, c'est un exemple très précis, de montrer, je dirais, le côté négatif de l'usage abusif et systématique de la chimie. Et c'est vrai que avant cet exemple des cassis de Bourgogne, qui j'espère va devenir très célèbre, on a du mal à intégrer, à montrer que c'est du réel. On passe, entre guillemets, pour des charlots, pour des poètes.
Mais moi, ce que je trouve vraiment intéressant, et en fait...
Marie-Édith.
Ce que j'entends, c'est dans ce que tu racontes, c'est que finalement, l'agriculteur, c'est comme s'il se sentait seul responsable. Comme s'il perdait de vue que dans son histoire de cassis, il y a lui, il y a les pollinisateurs, il y a... Quand je veux dire, ouais. Tu vois, c'est quand même un ensemble.
Alors, c'est un petit peu un ensemble. Moi, je dirais que, comme chercheur, je vais en prendre un peu ma partie. Hein, ça fait 70 ans que toute la recherche en agronomie, c'est sur plus de pesticides, plus d'agriculture intensive. Et en fait, c'est ça qu'on a diffusé vers les agriculteurs. Donc après, on ne peut pas leur reprocher d'avoir fait ce qu'on leur demandait de faire.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme s'il y avait aussi de poser un changement de paradigme. Oui. C'est-à-dire que, je dis ça parce que moi, en tant qu'artiste, je travaille beaucoup la question du collectif et du collaboratif. C'est vraiment une des bases de mon travail de performance. Et en fait, ce que j'entends, c'est comme si quand tu dis il fait un peu Monsieur Plus, et puis celui qui lui vend le pesticide, enfin encore un peu Monsieur Plus parce qu'il ne veut pas, qu'il rase. Effectivement, mais c'est dans ce regard-là, c'est sa seule responsabilité, qu'elle soit juste ou pas juste dans le thème de je prends plus de pesticides.
Ah bah en tout cas, c'est donc, celle seule à payer la note, si ça marche.
D'imaginer ou de penser ou de repenser le vivant, le système, en étant. Et je trouve que ça serait aussi intéressant de reposer aussi ce système, ou pas l'être humain tout en haut, parce que c'est aujourd'hui tel que c'est posé, mais comme il y a tout un travail qui est fait, et notamment aussi par des artistes, beaucoup, de remettre des formes d'équilibre ou...
D'interconnexion.
Ou un fleuve a autant de valeurs et de droits, et qu'il y a du juridique, etc., etc. Et que de poser cela, ça permet de penser le monde autrement.
Effectivement.
Et nous fait les transitions, parce que je crois que tu allais nous parler de quelque chose, tu m'en avais susurré quelques idées en préparant l'émission. Je crois que c'est la plus belle des transitions vers l'assurance collective des récoltes.
Tout à fait. Donc on a un Italien que je ne connais pas malheureusement, mais qui a eu un jour une idée superbe qu'il faudrait qu'on développe et qu'on reprenne à grande échelle. Lui, il travaillait sur le maïs en Italie et il pensait qu'il y avait un insecticide épandu par les agriculteurs qui était inutile. Et donc, il leur a proposé un système d'assurance ravageur sur la récolte, en leur disant, épandre l'insecticide, ça vous coûte 40 euros hectare. Vous allez avoir une assurance 3 euros hectare. Vous vous engagez à ne pas mettre cet insecticide. Et s'il y a un problème au niveau de vos rendements, l'assurance complétera. Et donc, ce système-là, en fait, moi, je trouve très, très... D'abord, ça a super bien marché, parce que dans 99% des cas, il n'y avait pas de problème suite à la non-utilisation de l'insecticide. Donc, je pense qu'ils ont même dû réussir à baisser les taux d'assurance. Et puis, ce que je trouve important, là, c'est que la transition... agroécologique pour les agriculteurs, c'est compliqué. Il y a beaucoup de prises de risques. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui aimeraient bien, mais quand ils font une transition vers du bio ou vers de l'agroécologie, on va dire qu'ils mettent en péril la moitié de leur revenu annuel. Et ça, on n'est pas beaucoup à accepter de prendre ce risque. Et si la société acceptait de prendre le risque à la place de l'agriculteur,
de collectiviser
le risque, de façon
comme pour passer mieux dans les
voilà à ce que les deux trois premières années s'il y a une petite baisse de rendement, un souci, ça soit mutualisé au niveau de soit des producteurs, soit de la société,
et on valorise l'inutile. Non, si,
valorise l'inutile,
je sais pas, mais Claire, qu'est-ce que ça t'inspire ? Est-ce que cette ode à la joie de la pastorale, est-ce qu'on pourrait refaire des compositions de musique autour de... Est-ce que ça pourrait devenir un ingrédient pour la création musicale, ce genre de récit ?
Probablement. De toute façon, on peut faire de la musique avec tout, donc pourquoi pas. Mais avec quoi ? Avec la mutualisation ou avec...
Non, avec cette... je dirais ce tableau un petit peu surprenant et émerveillant de la biodiversité telle que Marie-Charlotte nous la raconte. Et puis, il y aurait mille et autres sujets. Alors, il ne s'agit pas de faire des leçons, mais est-ce que ça peut être des sources d'inspiration ?
Oui, bien sûr. Surtout que, de toute façon, la musique, c'est une des formes d'art qui sert aussi à faire passer des messages. Alors, de nos jours, peut-être moins que ça pouvait l'être avant, mais moi, j'ai toujours espoir qu'il y ait certains messages importants, notamment pour tout ce qui est au niveau de la planète et tout ce qui peut être très important si on veut espérer survivre un jour. moi, j'ai un peu espoir que ça puisse être des choses qui peuvent être transmise justement par la musique, soit par des compositions, soit par des même des, enfin, voilà, des chansons.
Alors comment justement tu vis, toi, en tant que chanteuse lyrique, d'ailleurs c'est un peu un pléonasme, ça, chanteuse lyrique.
Non, parce que c'est un style, enfin oui, voilà, c'est un style. Une manière de chanter, comme on pourrait parler de chanteuse pop ou chanteuse de métal, ou voilà, c'est une manière de chanter.
Mais
oui, tout n'est pas lyrique, c'est ça.
Voilà, mais bon, c'est une autre histoire, comme dirait Pimprenelle. mais oui, donc, alors toi, dans ton quotidien d'artiste, alors peut-être dans les préoccupations de l'orchestre, comment ça sort? Dites-nous, parce qu'effectivement, on est un petit peu des planètes qui se
chevauchent,
qui voyagent sans forcément toujours se télescoper. Comment, dans le monde artistique, est-ce qu'on en parle de ces sujets-là?
En musique, on n'en parle pas tant, parce que je pense que c'est un milieu qui est éloigné en termes de... C'est pas palpable, la musique, à part avoir des partitions ou quoi, mais sinon, le son, il est pas physiquement palpable, et donc je pense que ça en fait quelque chose qui reste éloigné par rapport à d'autres arts où on pourrait utiliser des matières premières, ou tu pourras nous dire ça mieux que moi, je pense. En revanche, il y a l'idée de localité qui ressort chez les musiciens, notamment parce qu'avec des tournées ou avec des musiciens qu'on va faire venir de l'autre bout du monde pour faire un concert, à l'heure d'Internet et de la possibilité de regarder des choses en streaming ou en DVD ou en, voilà, sur des plateformes. Ça, c'est une question qui commence à émerger. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on rapproche la musique du côté... J'ai pas le mot.
Biodiversité,
voilà, écologie, tout à fait. Il y a eu des choses comme ça, exactement. Il y a eu des choses qui ont émergé là-dessus, notamment chez les musiciens classiques, parce que autant c'est une grosse question, je pense, chez les musiciens de musique actuelle, donc tout ce qui est rock, pop, ce qu'on peut entendre à la radio essentiellement. Enfin, essentiellement, non, pas que, mais bref. Parce qu'il y a des tournées vraiment faites par, voilà, on prend l'avion, on va dans tel pays, et le lendemain, on va dans tel pays, et le lendemain, on va dans tel pays. Et donc ça, c'est vraiment une grosse question. Chez les musiciens classiques, elle s'est moins posée, parce que jusqu'à assez peu de temps, on gardait nos artistes localement. Et voilà, si on voulait un super chanteur lyrique, et ben on prenait le super chanteur lyrique de telle ville. Ou voilà. Et maintenant, il y a beaucoup plus de croisements entre les continents. Et ça, c'est une question qui commence à émerger, même dans des enseignes qui sont un peu moins touchées ou un peu moins proches de l'écologie et du
monde d'aujourd'hui. Là, on va dire que tu nous parles de l'empreinte carbone, par exemple.
Tout à fait. Et nous, c'est plutôt dans ce sens-là que ça commence à émerger. De toute façon, globalement, la musique a toujours été assez... j'ai pas envie de dire en retard, parce que je veux pas cracher sur mon métier, mais c'est un peu ça, même au fil des âges, que ce soit sur plein de sujets, la musique arrive souvent après même que d'autres arts. Donc je pense que ça, c'est plutôt des sujets qui vont émerger dans les années à venir, je l'espère, le plus vite possible.
Marie, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, je voulais prendre
alors,
le relais.
Alors, dans le micro.
Je voulais prendre le relais par rapport aux arts plastiques. Et en fait, il y a plusieurs manières en tout cas, moi, je vois dans ma pratique et dans la pratique de beaucoup d'artistes qui m'entourent et avec lesquels je peux travailler, on va travailler avec des matériaux qui ont déjà ce qu'on appelle du réemploi. On va travailler avec des matériaux naturels, des pigments.
Alors, c'est bon, je t'entends.
Plutôt de l'aquarelle que de l'acrylique. Mais aussi, je pense que ça, c'est aussi pas seulement cette dimension de quel type de matériau. En tous les cas, pour mon travail, ça va être aussi comment je m'inscris en tant qu'artiste dans des écosystèmes et qu'est-ce que je vais transmettre, qu'est-ce que je vais faire. Par exemple, moi je fais alors pour le coup des fresques qui ne sont pas très écologiques, puisque je fais des fresques sur des murs avec des enfants, avec de l'acrylique, donc c'est pas ce qu'il y a du tout écologique. Mais en revanche, dans la manière que je vais avoir de travailler avec eux, dans la manière dont je vais travailler avec 200, 300 enfants, plus les parents, plus les équipes pédagogiques, où nous allons, à partir de mon univers, on va créer une fresque où chaque enfant va pouvoir poser quelque chose dont il sera fier, où on va travailler sur des collaborations, sur qu'est-ce que ça veut dire de peindre à côté de l'autre et de respecter la tâche ou le coloriage qu'il va faire, comment faire en sorte que je réponde à des critères pour que peu à peu il y ait une œuvre qui se construit. Comment
une œuvre collective qui quelque part peut être un petit peu une image de l'écosystémique dont on parle.
Oui, c'est ça. Et comment,
parce fonctionner que, bon, ensemble un peu autrement.
Voilà, travailler ensemble, fonctionner ensemble, avoir une intentionnalité ensemble. Donc voilà, ça c'est ce que je peux faire avec des enfants. Je peux travailler dans des festivals où je peux intervenir sur des performances collectives.
Alors c'est vrai que si tu pouvais puiser dans la biodiversité des exemples d'éco-fonctionnalité, comment toutes ces bestioles fonctionnent à quelquefois ensemble sans répondre à une partition, mais d'une manière un peu naturelle, c'est un terme que j'aime pas employer, mais spontanée, quoi. Sans, c'est vrai que ça peut être une grande source d'inspiration. Des interrelations comme ça, il y en a des fantastiques.
Oui. Mais en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de dépasser, c'est-à-dire de... Parce que tout le monde ne s'intéresse pas forcément à tout ça formidable, aux cochenilles ou aux abeilles. Mais en revanche, par exemple, si je vais travailler dans un festival, forcément avec les publics qui vont être là, on peut mener des performances avec des publics différents où la base de mon travail va être de voir comment je mets les conditions pour que les personnes puissent interagir, se rencontrer, se rendre compte que l'autre qui est différent peut apporter quelque chose.
On pourrait trouver des accointances entre l'écologue et puis la plasticienne dans les manières de faire travailler ensemble. Quoi. Cette notion nouvelle.
Faire
commun.
Et avec du son.
Et après, on passe à la musique.
Oui, ça me fait songer, en fait, tu parlais de festival. Et en fait, ça me fait un peu tilt de...
C'est ce qu'on cherche, les tilts.
Eh ben voilà, il y en a eu un. Je songeais au festival de musique, pour le coup, parce que c'est... Bon, c'est super un festival. Voilà, vous y avez peut-être tous été, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas très assez. Bien. Pas suffisamment. Notamment un bilan carbone énorme, un festival, entre... mettre en place les endroits, faire venir les artistes, l'électricité que ça consomme, beaucoup beaucoup de choses. Et également, c'est souvent des festivals qui se trouvent à des endroits où normalement c'est des endroits de nature, parce qu'il faut bien pouvoir mettre les gens et les scènes et les choses. Et donc ça, c'est aussi des questions qui reviennent un peu de plus en plus, parce que en termes environnementaux, c'est quand même... Ça peut être un gros gros souci. On met des milliers de personnes et des grosses scènes et des choses qui vont venir perturber le milieu des insectes, des animaux qui se trouvent par là normalement. Et ça, c'est des questions qui reviennent.
Comment rendre hommage à la biodiversité ?
C'est ça. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des festivals qui sont beaucoup plus respectueux de leur environnement et
d'une part, mais aussi de prendre conscience de la biodiversité qui nous entoure. Mais je crois qu'on va faire la pause musicale et puis on va creuser on va répondre à la question. Je dis toujours ça, mais on réussit jamais. Mais vas-y, Armand, on t'écoute.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Jounen an te ret, lan nit la kay long. La mwen ke ale a yo ke bizwen an pon. Facebook, c'est pas gentil, tu m'as l'ombre. M'en pas qu'à courir, bah, ici, madame, ou pencher. Pour qu'on m'en la m'en abîmé. Papa, bon, m'en balan, m'en bon Dieu. We run the town. We run the town. M'en parle de sa
Titi volant, m'en pas courir bay, madame ou penché. Depuis tout petit, moi abîmé. Ah, papa, bon, moi m'en balan, m'en bon Dieu. We run there, 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 we run there.
Eh bien, vous êtes sur Aligre FM de Les Arènes de l'écologie avec un morceau qui m'a semblé être un peu créole. Allez, dites-nous tout, là, les deux compères de la régie, c'était qui? On t'entend pas très bien.
Ça va pas du tout aujourd'hui.
Bon, bah, écoute, tu nous l'écriras et puis on le dira à l'antenne. Oui, alors, bon, naturellement, comme d'habitude, on a posé plein de questions, on vous a promis qu'on vous donnerait les réponses, et puis bah, là, l'heure tourne, et puis on ne va pas pouvoir vous donner toutes les réponses. Mais on va terminer, bah, on va d'abord remercier nos amis de la régie, parce que je les squeeze un coup sur deux, et puis là, on va réussir à terminer, on va faire un tour de parole. Moi, ce qui m'a plu ce soir, c'est de vous entendre dialoguer vraiment scientifique, artiste, pas forcément sur le commentaire des œuvres et pourquoi, mais sur plutôt cette idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Et c'est ça qui me plaît. Allez, vas-y, Claire, je te vois.
Non, je trouvais ça très, très vrai. Non, mais c'est pas vraiment fréquent qu'on puisse faire ce genre de choses parce que... Ben voilà, quand on fait partie d'un métier, on
est dans son
voilà,
métier, dans
on
son
est dans son métier avec des gens du même métier ou qui s'en rapprochent, et du coup c'est assez rare qu'on puisse vraiment dialoguer comme
et ben,
ça.
Dans les arènes de l'écologie, on fait se rencontrer les différents gladiateurs.
Et ben, c'est donc, parfait.
On essaie de faire du multidimensionnel.
Voilà.
C'est vrai.
Allez, Marie-Édith.
Alors, pour moi, c'est un peu plus courant, c'est un peu plus habituel. D'abord et d'une, parce que...
Ah, t'as dû casser la baraque.
Non, mais je veux dire, je suis dans un tiers-lieu. Je veux dire, mon atelier est...
ouvert à tout le monde,
voilà,
presque.
Et d'un, et
il faudra te rendre visite, d'ailleurs.
Voilà, ouvert à tout le monde. Donc, en permanence, j'ai l'opportunité de pouvoir croiser, rencontrer différents types de personnes. Et d'ailleurs, de monter les projets. Avec des disciplines différentes et pas forcément que des disciplines.
Alors c'est ça qui est très intéressant, parce que nous qui sommes journalistes, on a un peu l'habitude de rencontrer des profils différents, mais pas forcément de travailler ensemble et pas forcément de réussir à composer ensemble. Marie-Charlotte.
Eh bien moi aussi je trouve que c'est très intéressant d'échanger avec des artistes. Et puis voilà, la biodiversité, il ne faut pas que ça soit juste une affaire de spécialistes et de scientifiques. La biodiversité, elle est là pour tous les humains.
Pas que.
Pas que. Elle est là aussi voilà, pour tout ce qui est vivant sur Terre. Et effectivement, moi, j'ai qu'une envie, c'est que les artistes s'emparent de ces idées de biodiversité par n'importe quel angle, par la beauté, parce que la nature est belle, hein, ou alors par des problématiques plus terre-à-terre comme les miennes de destruction de biodiversité, pour devenir vraiment des passeurs de ces messages vers la société.
Bon, bah, il est l'heure de terminer. Ben, j'imagine que tu vas partir pour l'apéro, c'est ça ?
Non, je pensais comment on peut s'approprier justement toutes ces questions de biodiversité d'un point de vue aussi politique. Comment se fait-il qu'il n'y a pas de ministère de la biodiversité en France ?
Bon, il y a déjà un ministère d'écologie. Mais bon, cher ami, on va être obligé de rendre l'antenne avant qu'on ait résolu le problème. Hein. Bon, on en reparlera pas la semaine prochaine parce que ce sera Tatiana Giraud qui nous parlera aussi d'un compte de biodiversité. Est-ce que je vais spoiler la chose ? On va être dans la biodiversité invisible. Et je vous laisse venir la semaine prochaine découvrir dans quelle invisibilité, dans quel monde invisible on va s'aventurer. Bon.
Et silencieux.
Voilà, il nous reste à vous souhaiter une excellente semaine. Et puis revenez vite sur Aligre FM. Et puis à bientôt. Bonne semaine à tous.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.